Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Il était une fois une belle jeune femme qui écrivait des livres et qui ressemblait à Néfertiti. Quelle formidable coïncidence pour cette Toulousaine qui, dès l'âge le plus tendre, s'est pris de l'Égypte ancienne, de son histoire, de ses monuments, de sa population et de sa culture. Elle étudia longuement, devint docteur de l'école des hautes études en sciences sociales et après avoir soutenu une thèse intitulée « Les enfants en Égypte ancienne, des époques pré-dynastiques à la fin du Nouvel Empire », devint chercheur associé à la mission archéologique française de Thèbes Ouest. À l'occasion de la très belle exposition des vestiges liés au tombeau de Toutankhamon à Paris, des radios nationales et des chaînes de télévision ont fait appel à elle en tant que spécialiste. Voici donc une égyptologue, archéologue et écrivain de surcroît. En effet, elle a écrit de nombreux ouvrages accessibles au grand public, ainsi que des livres pour la jeunesse, livres que les parents ont plaisir à emprunter à leurs enfants. Elle fait aujourd'hui appel à Thoth, dieu égyptien de l'écriture, pour nous proposer 30 histoires, des fables, des contes et des mythes. Voici donc les contes de Thoth, édités par la maison d'édition La Châtaigne Bleue, et je suis vraiment très heureuse d'accueillir Amandine Marchal. Bonjour Amandine Marchal.
Bonjour.
Alors, d'où vient votre attrait pour l'Égypte ancienne ?
Il remonte à la classe de la 6e, où j'ai eu la chance, puisque aujourd'hui les programmes sont un petit peu plus réduits pour les enfants, j'ai eu la chance d'avoir de passionnants cours d'histoire sur le sujet et de visiter le musée Georges Labi. On a une très belle collection égyptienne.
Avec une momie.
Ah oui. Oui. Et le coup de foudre a été immédiat avec tout. Avec la momie, avec Toutankhamon, avec les hiéroglyphes, avec les pyramides.
Et est-ce que vous, adolescente, vous avez lu le roman de la momie de Théophile Gautier ?
Oui, je l'ai étudié à l'école.
Ah oui, bien sûr. Carrément, carrément. Alors, dans quels endroits de l'Égypte vous êtes allée ?
Alors, en visite à peu près partout, pour faire des fouilles dans le nord du pays à Tanis. Et ensuite, depuis... une quinzaine d'années à peu près. C'est plus régulièrement sur un chantier qui se trouve de l'autre côté du Nil, en face de Louxor, donc sur la rive ouest de Thèbes, au Ramesséum, qui est en fait ce qu'on appelle un temple de millions d'années, qui était consacré à Ramsès II. Et en fait, un temple de millions d'années, c'est un temple que le roi se fait faire, non pas, enfin, pour sa gloire personnelle et non pas pour un dieu. Donc il était adoré finalement comme une espèce de dieu vivant sur terre durant son vivant. Et quand il décédait, le temple continuait à fonctionner. C'est un culte funéraire qu'on lui organisait.
D'accord. Alors, est-ce que l'Égypte actuelle est encore imprégnée de ce passé, de cette civilisation ?
Alors, elle est imprégnée, je dirais, déjà dans le paysage, parce qu'il suffit de se promener, ne serait-ce que dans le nord du pays, pour voir plusieurs pyramides poindre un peu partout. Donc, oui, elle est toujours présente.
Oui. Et dans leur culture, puis c'est vrai que aussi, compte tenu du nombre de touristes qu'il y a à nouveau, heureusement pour la population, effectivement, on doit exploiter cette masse de touristes. On doit vendre des objets, des choses, des imitations, etc. Comment expliquez-vous cet incroyable succès des diverses expositions qui ont eu lieu à Paris ? Alors là, on annonce pour 2019, 1 423 170 visiteurs. En 1967, il y en avait un peu moins, mais il y en avait énormément encore. Pourquoi ?
Je pense... Alors, bon, ça n'engage que moi, mais je pense parce que, en fait, la France est un pays d'histoire. On est très, très attaché à cette culture, justement, de notre patrimoine, qu'on a une culture qui est très forte, avec des vestiges qui sont différents un petit peu partout aussi, selon les régions, donc des vestiges qui ont des époques différentes, qu'on a toujours été attaché, justement, à les valoriser, à aussi transmettre finalement cette culture et cet amour du patrimoine. Et donc je pense que c'est pour cette raison qu'on est plus particulièrement attaché à l'Égypte, parce qu'il faut quand même le dire, on est le pays au monde où on a l'attachement le plus fort pour l'Égypte ancienne.
Est-ce que Napoléon a aidé à cela ?
Bien sûr. Alors après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que bien avant Napoléon, déjà au Moyen-Âge, les élites européennes étaient très intéressées et intriguées par la culture égyptienne. Alors déjà parce qu'à l'époque, on avait une mode qui était la momia, qui était en fait une poudre de momie égyptienne, qui était censée guérir de toutes sortes
une
de maux.
Une poudre de momie ?
Oui, une poudre de momie.
Ah, parce qu'on s'attaquait aux momies, donc
oui.
Ce qu'on ne fait plus.
On grattait. Donc au départ, en fait, on grattait la peau des momies pour essayer de récupérer un maximum d'onguents et de résine dont on les avait badigeonnés, justement pour obtenir la momia qui est en fait une espèce de résine bitumeux qu'on trouve sur les bords de la mer Morte, qui est assez rare. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand on a vu l'engouement des gens pour cette momia, on a carrément réduit en poudre plusieurs momies. Donc on vendait cette poudre de momie en disant qu'elle avait des vertus de jouvence, qu'elle pouvait vraiment soigner toutes sortes de maladies. D'ailleurs, François Ier avait toujours son petit sachet de momia à portée de main aux grandes dames de son médecin personnel qui lui disait qu'il n'en avait pas besoin. Donc on a déjà eu une fascination pour l'Égypte dès le Moyen-Âge. Louis XIV avait lui-même une collection avec des momies égyptiennes. Donc en fait...
Qui sont devenues quoi ?
Ah, qui sont aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
D'accord. On ne les a pas pilées, là.
Non, celle-là, d'accord. Non. Et en fait, la campagne de Napoléon a finalement continué à susciter cet engouement qui, bon, avait déjà débuté un peu plus tôt dans le temps.
D'accord. Alors, cette exposition Toutankhamon, vous y êtes allé ?
Oui, bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut en parler avant de parler de votre ouvrage ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, qui connaissez quand même tellement de choses de l'Égypte ?
Oui, alors après, on connaît beaucoup de choses. Il faut quand même aussi remettre les égyptologues à leur place. On ne connaît pas tout. On ne peut pas être spécialiste de tout. Et je pense qu'heureusement, on a aussi des yeux d'enfant quand on va voir ce genre d'exposition. Moi, j'étais complètement émerveillée.
Ah oui.
Voilà, il y avait des objets que j'avais déjà vus, mais... Voilà, on ne peut pas être blasé, on va les revoir 100 fois, on sera quand même émerveillé à la 100e fois. Il y a des objets que je ne connaissais pas et surtout il y avait des objets que je ne connaissais que sur photo. Et en fait, j'étais très très impressionnée de voir la taille de ces objets. En fait, je n'avais jamais eu en tête finalement la bonne échelle. Donc pour moi, il y avait beaucoup de petites boîtes, de petits coffrets. En fait, c'est des boîtes qui sont énormes, c'est des coffres, ce n'est pas du tout des coffrets. Donc j'ai trouvé ça assez bluffant, justement, en fait, de voir ces tailles-là. Et ce qui m'a le plus, je dirais, ce sont les boîtes. Bon, voilà, c'était pas les bijoux, moi, c'était les boîtes.
Les boîtes, oui.
Parce qu'elles sont particulièrement bien faites, elles sont extrêmement raffinées. Et après, le petit détail que je m'amusais en fait à chercher, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes les boîtes ou les coffrets, soit on savait ce qu'il y avait à l'intérieur parce qu'on avait une inscription sur la boîte, soit on avait une étiquette en fait, qui était accrochée, qui nous permettait de connaître le contenu. Et d'ailleurs, quand les voleurs vont rentrer dans la tombe à deux reprises, puisque contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la tombe n'était pas intacte, elle a été pillée à deux occasions. Alors heureusement, pas beaucoup, mais elle a quand même été pillée.
Ils savaient déjà où se trouvaient les choses intéressantes.
Alors oui, puis c'est surtout que en fait, ils ont tout ce qui les intéressait pas, ils ont un peu bazardé un petit peu partout dans la tombe, et donc grâce à ces listes précieuses, on a pu en fait finalement réassocier ce qui restait au contenu des boîtes, et donc savoir en détail ce qui avait été pris par les voleurs.
D'accord. Alors, moi, j'ai vu un reportage à la télévision et on montrait des salles du tombeau. Il y a une pagaille énorme. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont les voleurs, les pilleurs qui ont mis tout en vrac ?
Bon, alors, pagaille énorme, ça dépend où. Effectivement, en fait, on a un premier long tunnel qui a abouti à une pièce qu'on appelle l'antichambre, où c'est plus de 1000 objets hein, qu'on a retrouvés dans cette pièce. Et là, dès que le fouilleur rentre, en fait, Howard Carter, dès qu'il rentre dans cette pièce, il sent très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va se rendre compte qu'en fait, voilà, il y a eu une espèce de grand chambardement, qui est en fait le pillage des voleurs, et que les fonctionnaires qui sont rentrés dans la tombe pour ranger, ils ont rangé, mais vraiment à la hâte, donc ils ont un peu poser les choses n'importe comment. Donc on a des choses qui sont entassées vraiment sans aucun ménagement. Donc ça, c'est pour cette pièce. Et ensuite, ils ont fait un trou, ces voleurs, ce qui d'ailleurs nous permet de savoir qu'il y avait au moins une partie des voleurs qui étaient des ouvriers de Deir el-Médineh, qui sont en fait chargés de construire et de décorer les tombes dans la Vallée des Rois, parce qu'ils ont fait un trou à l'endroit où il n'y avait pas une porte, mais où il y avait un passage. Et on ne fait pas un trou n'importe où dans le
donc,
mur.
Ils
savaient qu'il y avait
plan.
Une pièce voilà, derrière donc, de l'autre côté. Et là, par contre, ce qu'on appelle donc l'annexe, il y avait plus de 2000 objets à l'intérieur. Pourtant, là, c'est une pièce qui est quand même assez petite. Donc, les objets avaient été vraiment entassés soigneusement. Et là, c'était vraiment le capharnaüm. Ah oui, c'est ce que dit le fouilleur. Quoi. Il dit, mais on n'a pas idée du bazar indescriptible qu'il y avait, en fait, de l'autre côté du mur.
Et tous les objets plus beaux que les uns que les autres, non ?
Alors,
l'ensemble.
Peut-être pas plus beaux les uns que les autres, parce que bon, il y a quand même une...
Parce que même, il y a des tabourets qui sont extraordinaires.
Mais de toute façon, il y a énormément de choses qui sont extraordinaires. Après, des choses qui peuvent paraître communes. C'est vrai que moi, je propose une conférence justement sur la tombe de Toutankhamon. Alors, l'envers du décor, justement, pour expliquer un peu ce qui n'a jamais été raconté aux gens. Et donc, je montre quelques photos et j'explique des choses. Et à un moment donné, je montre aux gens ce qui est en fait un lit, je me dis oui, bon, c'est un lit. Non, c'est pas un lit, c'est un lit pliable, c'est un lit de camp pliable. Ils avaient déjà imaginé ça. Je me dis, c'est quand même des choses qui sont géniales à montrer aux gens.
Tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de Napoléon, mais il a dû s'en inspirer pour ses camps. Mais alors, ça, par exemple, j'avais noté, moi, qu'est-ce qui vous a surpris ? Un lit de camp pliable, par exemple. Ça c'est inattendu.
Alors oui, c'est inattendu. Après, c'est vrai que ce lit de camp, bon, moi, j'avais l'info avant. Donc, j'étais... Oui, d'ailleurs, il est pas présenté. Il me semble pas qu'il soit présenté à l'expo. Mais par exemple, dans la tombe de Toutankhamon, ce qui est aussi sympa quand même à le dire aux gens, c'est qu'on a retrouvé des chaussettes. Il y avait bien des chaussettes qui existaient dans l'Antiquité, voilà, dans un pays qui pourtant est chaud, voire très chaud dans le
des
sud.
Des chaussettes
l'été.
De laine ?
Des chaussettes de lin. Et en fait, qui se présente un petit peu sous la forme de chaussettes japonaises, où en fait
avec les orteils.
C'est ça. En fait, on a la place pour le gros orteil, puis après on a la place pour le reste des pieds, justement parce qu'ils avaient des espèces de tongs qui sont assez semblables finalement aux nôtres, ou peut-être les nôtres qui sont finalement assez semblables. Voilà, aux leurs. Et donc on a retrouvé plusieurs paires de chaussettes, notamment dans sa tombe.
D'accord. Oui, ça devait être fabuleux. Alors, on peut dire à nos auditeurs que ça s'est terminé le 22 septembre et que ça continue
à
Londres maintenant. Oui. Il faut aller à Londres. Bon, c'est un peu plus loin. Et ensuite, ça part.
Et donc, alors, je ne sais pas où ça va partir, mais en fait, ça va faire une petite tour d'Europe. Et dans 2 ans, ça réintègre définitivement en fait, le grand musée égyptien qui ouvrira solennellement à cette occasion, donc juste à côté des pyramides.
D'accord. Alors, Toutankhamon, c'était le roi le plus prestigieux ? Ou c'est parce qu'on a découvert...
Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a enfin quelqu'un qui parle de roi prestigieux. Alors, ce n'était pas forcément le cas, mais d'habitude, justement, on est assez méprisant, je trouve. On dit oui, enfin bon, c'était un petit roi de rien du tout. Voilà, je trouve assez aberrant de dire des choses comme ça. Non, ce n'était pas un roi de rien du tout. Il aurait vécu plus longtemps, on n'aurait pas dit ça. Donc, en fait, il est mort dans la fleur de l'âge. Il avait effectivement entre 18 et 20 ans quand il est décédé.
Il est mort de quoi ?
Donc... Alors juste, je réponds à une question, je finis après.
Oui, d'accord.
Donc, il n'a pas effectivement laissé,
jeune.
Très jeune, il n'a pas laissé, bien sûr, beaucoup de traces, notamment au niveau des constructions, au niveau des bâtiments. Mais jamais de la vie, les Égyptiens auraient pensé que leur roi était un roi de rien du tout. Alors, roi de prestigieux, on ne peut pas dire ça non plus, parce qu'effectivement, il n'a pas eu le temps d'accomplir beaucoup de choses.
De laisser sa marque.
Bien sûr. Mais c'était, voilà, je dirais, ce n'était pas du tout un petit roi ou un enfant roi, comme on peut le dire. Parce que souvent c'est ce qu'on dit et en fait c'est faux. On sait qu'il est décédé d'après sa momie entre 18 et 20 ans et la dernière année de règne connue pour Toutankhamon c'est l'an 8, donc il est tout simplement monté entre 10, 11 et 12 ans. Donc à partir de 10 ans on n'est plus considéré comme un enfant d'Égypte ancienne, donc à la limite on peut l'appeler le roi ado, mais il faut arrêter de dire le roi enfant parce que c'est pas vrai.
Oui, quand je dis il n'a pas eu le temps de laisser sa marque, ben oui, il a laissé ça. Tout ce tombeau avec des temps tellement d'objets magnifiques. Une question. Oui, vous ne m'avez pas répondu.
Voilà.
De quoi est-il mort, en fait ?
Alors, en fait, on a noté une fracture ouverte à une de ses jambes. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait de très, très gros problèmes, des pathologies liées à la consanguinité, parce que bon, dans la famille, c'est assez régulier. Et comme, voilà, à d'autres dynasties, d'épouser... La sœur ou la demi-sœur. Donc ses parents étaient demi-frère et demi-sœur. Et en fait, donc sur un pied, il avait notamment des os qui commençaient à se nécroser, alors que quand même il était très jeune. Il avait des os qui manquaient. On soupçonne, alors on a dit qu'il avait un pied beau, après on a dit que c'était pas vrai. Le problème c'est que ce sont des spécialistes qui le disent. Alors bon, moi je suis pas spécialiste de la question, donc je n'en sais rien. Par contre, il avait vraiment des problèmes pour marcher. On a retrouvé 132 cannes dans sa tombe, ce qui est énorme. Et on a retrouvé des cannes à taille d'enfant. Ce qui montre que déjà tout petit, il avait beaucoup de mal pour marcher. Donc... il est impossible de savoir, là, toujours des égyptologues plus malins que d'autres, pour arriver à déterminer que d'après une fracture, il a été poussé du haut de son char. Non, si on veut être vraiment scientifique et sérieux, on ne peut pas le savoir. Il y a beaucoup trop de possibilités pour fracturer une jambe. Et sachant que comme il avait quand même une très très grosse faiblesse justement au niveau des pieds, ça a augmenté aussi le risque. Donc il se fracture la jambe, on ne sait pas comment. Par contre, ce qu'on a pu déterminer, c'est que il est mort très très peu de temps après. Donc vraisemblablement, il y a une hémorragie
ou la gangrène, on ne sait pas. Oui, d'accord. Une question par rapport à la situation actuelle de l'Égypte. Il y a des recherches encore en cours, des fouilles
Alors oui, il y a bien évidemment toujours plusieurs missions de fouilles. Il y a des missions de fouilles égyptiennes.
Ça
et
n'a jamais été
arrêté
parce qu'il y a eu quand même des événements, même sanglants, à un moment donné. Ça ne s'est pas arrêté.
Il y a pu y avoir des diminutions effectivement de fouilles ou des fouilles qui ont pu durer moins longtemps. Mais bon, là, à l'heure actuelle.
Oui, avec, en sécurité, oui.
Après, il faut le dire, le risque zéro, il existe nulle part. Oui, je veux dire, voilà, quand on voit Paris,
surtout
Toulouse, Nice,
oui. Je sais. Vous allez y repartir ?
Bien sûr.
Ah, évidemment. Évidemment, on ne peut pas vous retenir. Je ne vous demanderai pas où. Alors, on a affaire, bon, évidemment, mais ça, nos auditeurs le savent, à une civilisation très élaborée, un univers religieux complexe et un sens artistique extrêmement développé. Alors déjà, j'ai été effarée du nombre de dieux et de déesses de l'Égypte antique. Alors, ça représente quoi ? Un millier de personnes ? Qu'est-ce que ?
Oui, alors là, je dirais que c'est pareil, j'ai un peu tout lu sur le sujet, des centaines de dieux, plusieurs centaines de dieux, un millier de dieux. Il y en a énormément, il y en a trop, assurément, pour qu'on arrive à les retenir tous.
Et parfois, un seul a plusieurs noms. Il y a des noms qui diffèrent, ou peut-être des orthographes, non ? Parce que moi, j'essayais de répertorier, puis je voyais... non, je me trompe. Ou alors, j'ai mal compris.
Voilà. Oui, alors là, je suis désolée, parce que...
c'est pas grave. Comment se retrouver dans tous ces dieux égyptiens ?
Alors, on peut pas vraiment se retrouver si vraiment on veut étudier le sujet. Il y a vraiment
Par thématique, non, il y a pas.
Non, parce que par exemple, on va avoir plusieurs dieux du soleil. On a Amon, on a Aton, on a Horarti, on a Ra, on a Repri. Il faut déjà se dire qu'on n'est pas du tout comme dans la religion grecque ou romaine, avec un nombre de dieux limités qui ont des attributions qui leur sont vraiment propres et distinctes les uns des autres. En Égypte ancienne, on peut avoir plusieurs dieux, par exemple du soleil.
Pour les éléments, oui, d'accord.
Voilà, comme on peut avoir, par exemple, on a trois dieux principaux de la guerre, qui sont le dieu Montu, qui sont le dieu Ya, qui est aussi le dieu de la lune. D'ailleurs, son nom même veut dire la lune. Et on a la déesse Hermète, qui est une déesse lionne.
D'où mon erreur. Moi, quand je vous disais, il y a des dieux qui ont des noms différents, et pour cause, c'est pas le même dieu.
D'accord.
Oui, voilà. Voilà, je comprenais
c'est
pas.
C'est ça.
Bon, pourquoi ont-ils une forme composite qui mêle à la fois un corps humain, une tête animale ou les pattes de lion ou...
Alors,
comment ça se fait,
ça c'est vrai, mais c'est réducteur. Parce qu'on va avoir, par exemple, des dieux qui ont une forme complètement anthropomorphe, donc une forme humaine. Par exemple, Isis, Nephthys, Hathor. Alors... Ah bon, attends, elle a trois possibilités en fait de formes. Quand on veut l'évoquer sous les traits de la déesse de la beauté, de l'amour, par exemple, on va représenter une belle jeune femme qui a des cornes, parce qu'elle a aussi notre attribution qui est en lien avec la maternité. Donc parfois, on peut la représenter sous les traits d'une vache ou avec une tête de vache. Alors là, on comprend bien que c'est pas la déesse de la beauté qui est représentée.
Ah, parce que le fait d'avoir des cornes, c'est la maternité.
Non, la corne rappelle la vache.
Oui.
Et donc la vache rappelle la maternité.
Le lait.
Voilà, le lait, tout simplement.
D'accord.
Donc, comme Hathor est fille de Ra, qui est le dieu du soleil, elle peut avoir aussi le soleil sur la tête, donc entre
les cornes. Ah, oui.
Donc, elle, selon, en fait, finalement, le statut qu'on veut présenter, on ne va pas forcément la représenter sous la même façon. De la même façon, le dieu Thoth, plus simplement, le dieu Anubis, quand il est sous forme humaine, mais avec une tête de chacal noir, c'est le dieu de la momification. Par contre, si on le représente entièrement sous la forme d'un chacal noir, c'est le dieu qui protège la tombe. Donc en fait, selon ses attributions, on ne va pas lui donner la même représentation.
Et alors, ce sont des prêtres qui aident à se retrouver dans ce dédale, qui ont créé même ces dieux ? Comment ça s'est instauré ?
Alors, les prêtres, non, parce qu'en fait, on voit que dès le prédynastique, donc dès la fin de la préhistoire égyptienne, déjà, on se met en place ce genre de croyance, avec a priori peut-être des espèces de totems, finalement, qui existaient en amont. Alors après, c'est vrai que, donc, juste pour terminer sur la question, donc on a donc des dieux qui ont une forme entièrement humaine, des dieux qui ont une forme composite, donc avec une tête animale et un corps d'homme. Inversement, on peut avoir aussi des divinités qui vont avoir un corps d'animal et une tête humaine.
Oui.
Par exemple, Serket, la déesse des scorpions, on peut la représenter sous la forme d'un cobra à tête humaine. Meret Seger, qui est une déesse cobra, elle a un corps un peu bizarre, qui est un corps finalement de cobra avec une tête humaine. On peut avoir aussi Alors un dieu un peu, je dirais hors norme, qui est le dieu Répri, qui a en fait un corps humain et sa tête, c'est tout le scarabée. On n'a pas simplement la tête du scarabée. Mmh. Je pense que vraiment, ça aurait fait très bizarre si ça avait été le cas. On peut avoir aussi des dieux qui sont entièrement représentés sous forme animale. Par exemple, Tuéris, qui est la déesse hippopotame, qui protège la famille. Elle est toujours figurée, quasiment tout le temps, sous la forme d'un hippopotame. Et puis, on peut avoir aussi des représentations très bizarres, comme par exemple, parfois, Maat, qui est la déesse de l'ordre, de la justice, de l'équilibre. Elle peut être représentée avec, en fait, tout simplement une plume à la place de la tête. D'ailleurs, oui. Au musée Georges Labi, on en a une représentation justement sur ce qu'on en appelle le livre des morts.
Quelle imagination, vraiment
impressionnant.
Impressionnant, oui. Alors, Etot est le dieu de l'écriture. Seulement le dieu de l'écriture ?
De l'écriture, de la sagesse, de la connaissance, finalement, c'est trois choses qui sont assez imbriquées.
D'accord. Alors, Thoth, c'est également celui qui va nous raconter des contes. C'est le titre de votre ouvrage, Les contes de Thoth. Alors, votre livre comporte 6 fables, 12 contes et 12 mythes. Expliquez-moi pourquoi vous avez... Il y a les fables, les contes et les mythes. Pourquoi avez-vous différencié tout cela ?
Alors déjà parce que les fables, en fait, tout simplement, les héros de ces fables sont des animaux. Les héros des contes sont des êtres humains et les héros des mythes sont les dieux.
Les dieux.
Ben voilà. Donc il y avait.
Très simple.
Oui. Oui, voilà.
Oui, d'accord. Oui, j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Alors je dirais à nos auditeurs que à l'intérieur de votre ouvrage, dans chacun de ces contes, de ces histoires, dans chacune de ces histoires, il y a des dessins qui ont été faits par vous. Vous êtes doué en oui. dessin.
Ah, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner, alors je me suis dit que c'était l'occasion.
Et oui, oui, oui. Et alors, vous êtes, à la fin de votre ouvrage, d'ailleurs, vous dites aux enfants, vous encouragez les enfants de colorier les dessins que vous avez faits. Ce sont oui. des dessins à l'encre, des traits noirs et de très bons dessins. Alors, donc, souvent, moi, j'ai trouvé que dans vos histoires, en particulier les fables, il y a beaucoup d'humour.
Oui, alors après, c'est les Égyptiens qu'il faut remercier, c'est pas moi. Moi, j'ai vraiment essayé de suivre la trame le plus possible, la trame égyptienne, justement pour ne pas déformer ce que les Égyptiens avaient raconté sur papyrus.
Alors, quand vous parlez de trame, où est-ce que vous l'avez trouvé, cette trame ?
Alors, dans plusieurs livres qui ont en fait traduit donc plusieurs de ces mythes, sachant que voilà, pour certains, c'est assez amusant de voir qu'ils ont traversé le temps. Par exemple, quand on a l'histoire du lion qui voulait rencontrer le rat et qui va se terminer par une rencontre avec une petite souris, bah, c'est tout simplement en fait cette histoire-là que La Fontaine va rendre très célèbre avec la fable du lion et du rat.
Oui. Oui, et là, par exemple, il y a le petit chevreau qui gambade au son de la double flûte et il veut que cette flûte alerte ses parents parce que en fait, il est piégé. Il y a quelqu'un qui lui veut du mal, c'est l'hyène, l'abominable hyène. Alors, peut-être était-il trop loin pour entendre la musique. « Plus fort, je n'entends rien !» dit le petit chevreau. L'hyène n'en pouvait plus, le soleil tapait fort, elle avait très chaud, elle était toute rouge, elle n'avait presque plus de souffle. « Par les oreilles carrées du dieu Seth, mais tu es vraiment sourd, ma parole !» dit la hyène, qui est vraiment énervée, qui en a assez et qui a hâte de croquer du chevreau.
Bien sûr.
Oui, oui, je suis sourd, plus fort la musique, voilà. Et l'hyène jouait depuis maintenant 10 minutes et les parents du chevreau n'étaient toujours pas là, etc. En fait, ils arriveront à temps. Donc, vous avez trouvé tous ces thèmes dans ce qui a été traduit des hiéroglyphes.
Oui. Alors, par exemple, au niveau des fables, et ça, je tiens à le souligner parce que bon, c'est quand même une nouveauté qui est assez sympa. Ces fables n'ont jamais été traduites, en fait, elles n'ont jamais été racontées dans des livres, en tout cas pour enfants. On les trouve dans une publication qui est un livre tellement compliqué qu'en dehors des bibliothèques d'égyptologie, on ne le connaît pas, et qui est en fait un livre qui traduit le mythe de l'œil du soleil. Et en fait, c'est une histoire à l'intérieur de laquelle on va retrouver plusieurs petites histoires qui sont en fait ces fables. Et je trouvais ça assez génial.
Merci de nous avoir donné accès. Parce que, est-ce que vous lisez les hiéroglyphes, vous traduisez ?
Alors oui, je les traduis. Après, je dirais que c'est comme toute langue et toute écriture. Il y a des choses que je peux lire sans avoir besoin d'un dictionnaire. Il y en a d'autres où j'aurais besoin d'un dictionnaire. Puis il y en a d'autres même avec un dictionnaire.
C'est compliqué.
Ça va rester très compliqué, oui.
Alors, nous allons faire une pause musicale. On n'a pas trouvé de flûte à deux becs dans nos réserves, mais Oum Kalsoum, elle est morte il y a quand même pas mal de temps déjà, hein, je crois, une dizaine d'années, non ? En tout cas, elle reste célèbre dans tous les pays du pourtour méditerranéen et du côté africain comme Moyen-Orient, je pense, et elle est toujours écoutée. Alors, on va écouter un petit peu Oum Kalsoum.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous venons d'entendre la chanteuse égyptienne morte en 1975, mais toujours, toujours très célèbre en Égypte, dans le pourtour méditerranéen, côté africain, bien sûr. Oum Kalsoum, donc grande chanteuse. Et vous dites qu'en Égypte, elle est encore écoutée.
Oui, très, très populaire.
Très populaire, oui. Oui. Alors, nous revenons à votre ouvrage, Les Contes de Thoth. On peut dire qu'il y a beaucoup d'activités dans ces contes. D'abord, il y a beaucoup d'animaux.
Oh, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de magie.
Beaucoup aussi. De magie, oui, on parlera des oui. de la magie. Ces animaux, on parlait de la hyène tout à l'heure, évidemment, mais par exemple, il y a des ours. À un moment donné, vous parlez d'un ours. Il y a des ours à cette époque-là et dans ces latitudes.
Oui, alors pas forcément en Égypte, mais les Égyptiens, en tout cas certains, ont pu en voir, notamment parce qu'on a des scènes qui nous représentent des tribus qui étaient apportées en fait par des contrées qui avaient pu être soumises à un moment donné par l'Égypte. Et il y a par exemple une scène dans une tombe où on voit un ours qui est apporté par des Syriens. Donc l'ours n'était pas forcément originaire d'Égypte, mais par contre il a pu être introduit à l'occasion de certaines tribus qui étaient offertes. Et c'est tout simplement un animal qui a pu frapper à un moment donné quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais l'intégrer dans mon histoire, mais il n'y avait pas Bien évidemment, il n'y avait pas d'ours en Égypte ancienne.
Oui, parce que bon, des lions, des panthères, on peut imaginer. Oui. Alors, et dès la première fable apparaît le chat. Alors, apparemment, dans la fable, il est d'abord chassé. Et quelle était sa place exactement ?
Alors, les chats, le chat est un animal ancien, pas aussi ancien que le chien. Il a une place déjà très utile à l'homme puisqu'il va chasser les souris et les rats. Donc c'est quand même sa première utilité.
Mmh, on apprécie.
Bien sûr. Ensuite, il va être domestiqué assez rapidement, donc on va aussi en faire un animal de compagnie. D'ailleurs, le chat se dit miou en égyptien, parfois même miou miou. On comprend pourquoi. Et donc à partir de la basse époque, donc on est à peu près aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, on va commencer à diviniser toutes sortes d'animaux qui sont en fait en rapport avec des dieux précis. Donc le chat est en rapport avec la déesse Bastet, qui est à la fois la protectrice des chats et une déesse qui est aussi associée à la maternité. Et donc à partir de ce moment-là, le chat sera un animal sacré, mais dans les cités en rapport avec Bastet uniquement. Donc il ne faut pas penser que le chat était sacré partout en Égypte, ça c'est une erreur.
Oui, alors les hommes savaient déjà utiliser les animaux, visiblement, comme bêtes de somme, comme... Non ?
Aussi ça, depuis la préhistoire.
Oui, enfin, et puis ils avaient déjà inventé la roue ? Ou pas ? Ah, bonne question.
Alors non, je dirais non. Que non, la roue, elle apparaît avec le char.
Oui,
Elle apparaît très tardivement.
Oui, mais dans les péplums, on voit des courses de chars, mais c'était beaucoup plus tard.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la roue, elle apparaît, donc quand je dis avec le char, on est à peu près aux alentours de 2000 à peu près avant Jésus-Christ. Donc sachant que les pyramides ont été, les plus importantes ont été construites aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ, il y a quand même une grande partie de l'histoire égyptienne qui n'a pas connu la roue.
D'accord. Ils doivent se prémunir, se protéger des animaux également.
Alors, au quotidien, on va se prémunir, on essaie de se tenir, si possible, à l'écart du Nil, ou en tout cas, on fait attention, puisque bien évidemment, il y a deux animaux redoutables qui sont le crocodile et qui sont l'hippopotame. Ensuite, côté désert, on a les serpents, on a les scorpions, qui peuvent aussi traîner dans les villages, et qui donc peuvent être très, très dangereux pour les hommes. On connaît... je ne sais pas, entre 20 et 30 espèces de serpents différentes. On a une vingtaine de scorpions qui sont aussi distincts. En termes de serpents, il faut quand même savoir qu'on avait, et on a encore en Égypte ancienne, en Égypte actuelle, la vipère à cornes, et qu'on n'a pas d'antidote. Si on est mordu, on meurt dans l'heure qui suit. Donc, même encore aujourd'hui,
même encore.
On peut avoir une menace.
Oui. Ah oui.
Donc, je dirais que, on fait attention, on essaye de se prémunir éventuellement avec des bâtons, et on va demander l'aide des dieux. Donc, on va les prier, on va porter des amulettes de protection.
Et en même temps, ces animaux-là, que ce soit le scorpion, le serpent, on les retrouve dans les bijoux, dans les tiares.
Justement, en tant que protection.
D'accord.
En tant que protection. Ouais.
Alors, bon, il y a une quantité de puissances surnaturelles, de divinités provinciales ou locales, funéraires. Enfin, il y a toutes sortes de divinités.
Alors, il y a énormément de divinités, on le disait tout à l'heure. Alors, il y a des dieux qui vont être finalement des dieux, on pourrait dire universels. Par exemple, Osiris, il n'y a pas d'autre dieu des morts. Il y a un dieu des morts et c'est lui. Il y a une déesse de la magie, c'est la déesse Isis. Après, c'est vrai qu'on peut avoir donc différentes divinités qui peuvent se partager finalement la même charge. Par exemple, au niveau du soleil, sachant que là aussi, on peut quand même avoir des variantes. On a le dieu du soleil levant, le dieu du soleil lorsqu'il est à son zénith, le dieu du soleil couchant. Donc ça introduit quand même des variantes, justement, au niveau de leurs attributions. Donc en fait, il y a des dieux qu'on peut retrouver d'un endroit à l'autre, parce que justement, en fait, la croyance a pu changer. On a pu donner, par exemple, un autre nom à un dieu du soleil dans le sud que dans le nord. Mais par contre, on a des dieux aussi qui sont plus universels.
D'accord. Est-ce qu'il y a des ancêtres déifiés ?
Alors, des ancêtres déifiés, non. On a des espèces de saints, c'est-à-dire en fait des Égyptiens qui ont pu être divinisés. Par exemple, Imhotep, c'est très certainement le plus célèbre. Donc lui, en fait, il a vécu à l'époque de l'Ancien Empire. Et c'est lui qui a imaginé donc la toute première pyramide égyptienne. Alors en fait, on avait déjà un modèle qui avait été réalisé auparavant, qui ressemblait effectivement une pyramide. Lui, il va en faire un modèle beaucoup plus grand et beaucoup plus abouti. Donc lui, il était grand prêtre, il était architecte, donc quelqu'un qui était très intelligent. Et les Romains, alors j'avoue que moi, je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir forcément une raison, en ont fait un dieu de la médecine. Donc, d'accord, il a été divinisé après coup. Après, des ancêtres divinisés, honnêtement, non. On a un culte qu'on rend aux ancêtres, puisqu'on pense qu'en fait, les ancêtres peuvent continuer à agir dans notre quotidien, puisque les esprits sont censés avoir un certain pouvoir magique qui peut être positif ou négatif. Donc, on peut effectivement rendre un culte aux ancêtres, soit pour s'attirer leurs bienfaits, soit pour essayer de les calmer si on pense qu'ils sont courroucés. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont divinisés.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que je suis en compagnie d'Amandine Marchal et qui vient nous parler des Contes de Thoth, un livre qu'elle a écrit et qu'elle a illustré. Un livre paru aux éditions La Châtaigne Bleue, un joli nom de maison d'édition. Et nous parlons donc de l'Égypte et de toute cette culture, richesse que l'on peut trouver dans l'histoire de l'Égypte. Et Amandine, là, vous nous gâtez parce que vous connaissez tellement de choses. Par exemple, on entre dans un monde merveilleux où l'homme peut parler le langage des animaux. Oui, ils vivent constamment dans cette sorte de féerie où... Bon, ils ont quand même les pieds dans la glace du Nil, hein,
En fait, déjà, il faut imaginer que tous les Égyptiens sont en contact étroit et permanent avec les animaux. Que dans tous les villages, on voit des poules circuler. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a encore ça dans les campagnes égyptiennes. Moi, ça m'est arrivé de rentrer vraiment dans des maisons vraiment de la campagne profonde. Voilà, il y a l'âne qui est juste à côté de la télé, il y a des poules qui traversent, qui sont dans le salon. Bon, ça, c'est plus concevable pour nous, mais en fait, c'est une réalité qui existait déjà en Égypte ancienne, où en fait, on n'a pas cette barrière. Bon, déjà, on n'a pas la barrière sanitaire, donc déjà, le fait de ne pas la voir, voilà, je veux dire logiquement. Bien après, sûr. Ces maisons des campagnes profondes dont je parle, il y en a beaucoup qui n'ont tout simplement pas de porte. Donc, je veux dire, pas de porte, ben, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile aussi pour un animal de rentrer ou de sortir. Donc, au quotidien, il voit passer des chiens, il voit passer des chats, il y a des poules, il n'y a pas des poules, justement. Zut, il y a des canards, il y a des oies, mais la poule arrive avec les perses. Donc, non, raté. Celui-là, il était pas.
D'accord. Il y a quelque chose qui a fait tilt. Vous avez parlé de télé actuellement. Parce que je me dis, mais toutes ces histoires, est-ce qu'ils faisaient comme nos anciens, à se les raconter, pas au coin du feu, je pense, en Égypte, mais quand ils se réunissaient le soir ou à la tombée de la nuit, est-ce qu'ils faisaient ça? Et est-ce que vous pensez que c'était comme ça qu'on transmettait ces histoires, ces contes, ces mythes?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une transmission orale qui est très très forte. Après, est-ce qu'ils faisaient ça? Déjà, c'est une généralité qu'on ne pourrait pas faire. Parce que déjà, si on doit parler de la télé, tout le monde n'a pas de télé, même si c'est une généralité. Bon, moi, par exemple, je n'ai pas de télé. Ça fait au moins 12 ans que je n'ai plus de télé. Et je m'en passe très très bien. Donc déjà, toujours faire attention aux généralités. Bien sûr, on a une part de transmission qui est très importante, tout simplement parce que la plupart des gens ne savent pas écrire et ne savent pas lire en Égypte ancienne, donc on va forcément transmettre beaucoup de choses à l'oral. Par exemple, tous les jeux qu'on a pu retrouver dans les tombes ou des jeux qui sont représentés, on n'a pas les règles, donc on ne sait pas exactement comment ils y jouaient, tout simplement parce que les règles, elles étaient transmises à l'oral.
Oralement,
oui. On a beaucoup... Donc là, j'ai fait une compilation en fait de ce qu'on connaît. Bon, je dirais quand même que 30 contes, fables et mythes, c'est pas énorme, hein, quand on voit ce que les Grecs ils ont laissé à côté. C'est déjà
oui,
bien.
Mais vous allez faire un tome 2.
J'aimerais bien. Là, j'ai tout donné. Non, j'aimerais bien, mais je veux dire, voilà, sur quelque chose comme 3 millénaires, 30 histoires, c'est vraiment pas beaucoup. Et on a en fait ce qu'on appelle des ostracas, qui sont en fait des éclats de pierre qui ont une surface à peu près lisse, sur lesquels en fait on pouvait s'entraîner à écrire, à dessiner, donc finalement que beaucoup d'Égyptiens utilisent comme brouillon.
C'était pas sur des tablettes, moi je croyais que les scribes écrivaient.
Non, ça c'est les brouillons.
Oui,
pardon. Le papyrus en fait ça coûte cher, donc en fait c'est vraiment quand on passe au propre.
Sérieux.
Voilà, qu'on va utiliser le papyrus. Et en fait, il faut quand même savoir qu'on a retrouvé énormément de petits dessins qui nous montrent vraisemblablement des histoires qu'on ne connaît pas. qu'on ne connaît plus aujourd'hui.
Qu'on n'est pas capable, plus capable d'interpréter.
Et oui, d'interpréter, on n'a plus en fait cette histoire, très vraisemblablement, parce que bah, comme les autres, elle a été racontée. Par exemple, la guerre qui raconte l'origine des chats, la guerre entre les chats et les souris, qui est une histoire qui est quand même assez sympa, qui justement est là pour expliquer pourquoi
pour nos auditeurs.
Les chats... Alors, en quelques mots, on avait un chat roux, donc la couleur rousse. Déjà, à cette époque-là, d'ailleurs, la malédiction des roux vient de l'Égypte ancienne. On a un chat roux qui, en fait, était très jaloux, puisque le roi, en fait, d'Égypte, était à ce moment-là, était un rat. Et donc, il va avoir la lumineuse idée de jeter une grosse ombre, on va dire, sur le royaume qui est en train de préparer le mariage du fils aîné, justement avec une petite souricette que tout le monde adore, qui est très gentille. Et donc, en fait, il va la tuer.
Le chat va la croquer.
Donc, le chat va la croquer. Le pharaon est éploré, le fils, et n'en parlons pas. Et en fait, des serviteurs vont lui dire, mais en fait, en examinant la momie, on a pu voir que c'était un chat qui avait fait le coup. Et donc, il va déclarer la guerre au chat. Et alors, ce qui est génial, c'est que cette histoire-là, en fait, comment on la connaît ? On la connaît parce qu'il y a un poème au XVIIe siècle qui en parle et on la raconte encore aux enfants aujourd'hui. On n'aurait pas eu cette transmission-là, en fait, ça aurait été comme les autres histoires où on voit qu'on a finalement beaucoup de dessins, mais pas l'histoire. Et donc, le chat va déclarer le pharaon, souris déclare la guerre au chat. Et les chats, elles ne sont pas préparés, donc ils vont subir une défaite absolument terrible. Alors ce qui est génial, c'est que sur ces dessins, on les voit à un moment donné, ils sont en train d'agiter une espèce d'étendard, genre pour avoir la paix.
Drapeau blanc.
On voit le pharaon souris qui est sur son char, qui tire des flèches. Enfin bon, c'est quand même assez génial parce que c'est assez animé finalement comme illustration. Et d'ailleurs, les illustrations du coup que j'ai faites, je les ai faites pour cette histoire-là à partir des dessins antiques. Et donc finalement, les chats vont devenir pour un temps donné les serviteurs des souris. Petite parenthèse, mais on n'avait pas d'esclaves en Égypte ancienne. Ça, c'est complètement faux. Merci les péplums. En Égypte ancienne, en fait, on doit accomplir un temps de servitude à la fin duquel on est libre. Donc, on reste ou on part. Les serviteurs ont le droit d'avoir
Le temps de servitude est pour tout le monde ?
Ah oui, il y a un temps de servitude, par contre, qui est pour tout le monde. Les enfants, du coup, peuvent, en suivant les parents, avoir aussi ce temps de servitude. Mais on n'a pas le droit, par exemple, de tuer un serviteur. Le serviteur peut avoir des possessions. Donc, il a quand même plus de droits qu'un esclave. Et puis, surtout, en fait, il va arriver un moment où il va pouvoir être libéré. Donc, les chats deviennent les serviteurs pour un temps de servitude qui n'est pas connu des souris, sauf que bien évidemment c'est pas une situation qui leur plaît beaucoup, donc ils vont fomenter une rébellion. Et là on a de nouveau en fait beaucoup de ces brouillons finalement dessinés où on voit des chats qui sont en train de surveiller des canards dans le poulailler. On a une chatte qui est nourrice et qui est en fait un petit sourisseau dans les bras, et devant elle on a une dame chatte qui porte une belle robe, qui porte une perruque. Donc c'est quand même assez génial de voir à quel point ils sont allés loin finalement dans ces illustrations d'histoire. Et donc lorsque les chats se rebellent, les souris ne sont pas du tout préparées en fait à cette attaque. Et donc ça va être une défaite particulièrement cinglante et qui donc pour les Égyptiens en fait expliquait pourquoi dès qu'une souris voit un chat, elle part, et dès qu'un chat voit une souris, il a une envie subite de la croquer.
Voilà l'explication. Alors, on est dans un monde merveilleux. Il y a des pouvoirs magiques. L'homme peut parler le langage des animaux. Il y a le dénommé Bata, il lui en arrive, des aventures. Les dieux peuvent se métamorphoser. Alors, tout ça, vous l'avez mis dans des contes qui seraient pour enfants, mais en fait, les adultes le pensaient.
Alors, les adultes le pensaient, oui, bien évidemment. Pour eux, la magie fait partie de leur univers. Mmh. Il faut bien imaginer que, en fait, quand on dit le magicien, on peut avoir vraiment des prêtres magiciens ou des médecins magiciens. Finalement, un magicien tout seul n'existe pas. Il est là soit en tant que prêtre, soit en tant que médecin, puisqu'en fait, on ne fait pas de distinction entre la magie et la médecine dans l'Antiquité.
D'accord.
Et donc la magie fait partie de leur univers. Et il faut bien imaginer que quand en fait ça ne marche pas, c'est jamais la faute du magicien. Si ça ne marche pas, bah, c'est que les dieux n'étaient pas d'accord, c'est qu'on a mal fait un truc. Bon,
oui, c'est,
ou le
c'est
dieu
bien
Seth, le dieu du mal, s'en est, voilà, voilà, s'en est mêlé.
Alors évidemment, par exemple, je parlais du fameux Bata. On peut retrouver la vie même 4 ans après sa mort. On peut refaire vivre un être qui est mort.
Alors là, on
ans.
Est vraiment dans le conte, parce que
ben,
dire,
oui,
le refaire
oui,
vivre,
oui.
Pourquoi pas. Mais je veux dire, 4 ans après, il est quand même plutôt bien conservé.
Oui, enfin, c'est très joliment dit, son cœur est sur une feuille, etc. Alors, mais souvent, comme dans les contes de La Fontaine, il y a une morale. Une morale, et donc on peut dire que ça pouvait servir peut-être, en effet, d'éducation civique, d'éducation morale pour les enfants.
En tout cas, une bonne base, parce que plutôt que de leur faire finalement la morale, on va leur raconter une histoire où finalement ils peuvent s'identifier au personnage. Par exemple, le petit chevreau qui veut n'en faire qu'à sa tête, ses parents lui disent non, tu es trop petit pour aller dans le désert tout seul.
C'est comme la chèvre de Monsieur Seguin finalement.
Ah, oui, c'est exactement ça. On utilise notre biais pour faire passer un message. Et donc là, il va avoir tellement peur parce que c'est vrai qu'il a eu chaud hein, quand même. Ses parents sont vraiment arrivés au dernier moment pour le sauver. Et donc la morale de l'histoire, c'est que voilà, il se jette en pleurant dans les bras de ses parents en lui disant oui, je le ferai plus.
Il a désobéi,
donc il était petit. Bon, donc c'est vrai que les enfants peuvent s'identifier, je veux dire, les enfants, peu importe l'âge, peu importe finalement le continent,
oui.
Ils peuvent s'identifier à ce petit chevreau qui permet de faire plein de choses. Et puis finalement, on se rend compte qu'il arrive quelque chose d'assez grave, il aurait pu perdre la vie. Donc voilà, peut-être que les parents se disaient, bon, s'il comprend ça, peut-être que... voilà,
oui.
Ce qu'on pourra lui dire, ça passera mieux. Ou des morales qui peuvent être, je trouve bien, effectivement, quand on a, par exemple, l'histoire de la chatte et de la maman vautour. Bon, voilà, ça ne peut faire que tilt à nos propres morales, en disant que, en fait, voilà, si on fait, quand on dit une mauvaise action ne profite jamais, c'est exactement ça.
Oui,
c'est-à-dire
ça.
En fait, voilà, la maman vautour va faire une mauvaise action,
et un jour
alors qu'elle était pour une bonne
payer.
Raison, mais on le paye toujours.
Oui.
Et donc,
oui,
il faut
oui.
toujours faire attention, parce que si on fait quelque chose de mauvais, ça va nous retomber dessus.
Bien sûr.
Et je me dis, bon, ça, on peut le comprendre à tout âge, et c'est ça qui est intéressant, c'est que par le biais, justement, d'une histoire, l'enfant ne peut pas. S'imaginer que finalement il y a ce poids de la morale, il va l'intégrer beaucoup plus facilement tout seul.
Alors on trouve aussi quelque chose mais qui existe de tout temps, c'est-à-dire des querelles au sein des familles et en particulier entre les frères pour le pouvoir. Parfois maintenant ça serait plutôt l'héritage. Et là, en fait, deux frères qui avaient volé le roi. Il y en a un qui est puni, mais l'autre très malin peut s'échapper. Et finalement c'est pas si moral que ça, parce que celui qui s'est échappé, le roi finalement le trouve tellement malin qu'il va dire on peut pas le tuer, on peut pas l'exécuter, donc il va lui pardonner, il va demander pardon ce voleur, mais il va être réinséré dans la société, si j'ose dire.
Oui, alors c'est vrai qu'on se... En soi, c'est pas bien. Après, on peut se mettre à la place de beaucoup d'Égyptiens qui voyaient effectivement ce roi avec énormément de richesses, en se disant, mais de toute façon, même si on lui en prend un peu, ça pourra jamais l'affecter.
Oui.
Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui spontanément pouvaient se mettre à la place de ce voleur. Alors bien sûr que c'est pas bien. Ils vont le payer cher, puisque là, ces deux-là s'entendaient bien, mais qu'effectivement, à un moment donné, ils ont été un peu trop gourmands, et donc il y en a un qui va se faire attraper. Et puis là, on voit quand même ce côté touchant de son frère qui effectivement est obligé de le décapiter. Il est obligé de décapiter son propre frère
pour qu'on ne le reconnaisse pas
et pour qu'il ne se fasse pas attraper, et qui ensuite va aller au risque de sa vie décrocher le corps de son frère qui est exhibé sur une porte de la ville. Il y a quand même un amour fraternel qui fait que bon, ce voleur il n'est pas si mauvais que ça. Et puis c'est vrai que il va jouer tellement de tours pendables aux soldats du roi qu'on finit par le trouver marrant, on finit par l'apprécier, et même le roi. Alors en plus, il tombe amoureux d'une princesse. Alors je dis en plus, même chez en Égypte ancienne, on a des histoires avec
des
princesses.
Il y a des histoires d'amour, mais il y a également des histoires donc, de trahison, de jalousie, de violence. Bon, finalement, c'est une société qui n'est pas parfaite. On voit aussi Osiris qui a épousé Isis qui est trahi par son frère. Enfin, des histoires souvent très compliquées, mais en définitive, souvent, elles se terminent bien. J'ai découvert aussi que les dieux peuvent changer de statut. Par exemple, Osiris, dieu de la végétation, devient le dieu des morts.
Et oui, et ça, du coup, c'est très intéressant parce que la végétation, elle grandit, à un moment donné, elle meurt, et puis après, elle meurt pour mieux renaître. Donc, on a un cycle que finalement, on va retrouver dans la religion égyptienne où on naît, on vit, on meurt, et puis ensuite, on est ressuscité.
Oui.
Voilà. Donc, ce sont des parallèles qui sont très, très intéressants.
Oui. C'est en fait très complexe pour décoder les messages. Là, je sens que moi, j'ai vraiment. Je survolais, vous nous aidez, heureusement, Amandine, mais je me dis qu'il y aurait encore plein d'autres choses à dire. Bon, on ne va pas parler du nombre de dieux au total. Bon, Ré ou Ra, que l'on trouve toujours dans les mots croisés en France, ça nous aide bien. Était un des principaux dieux de l'Égypte. Est-ce qu'ils étaient tous connus du peuple, de la population? Est-ce qu'ils étaient connus?
Pas du tout. Pas du tout. Alors, tous connus. Alors, ça dépend. Quand on met tous, on met qui dans le lot, déjà.
Oui, oui.
Donc, comme je le disais, en fait, on a des espèces de dieux universels, comme par exemple Osiris, comme par exemple Isis. Qui n'ont aucun équivalent. Seth, par exemple.
Seth,
ils le
connaissent.
Du chaos, du mal.
Et Ra.
Donc ça, c'est vraiment des dieux qu'on ne peut pas interchanger, qui ont vraiment donc une fonction très importante dans la religion et puis au quotidien aussi des gens. Après, il faut vraiment faire attention. Quand on dit, moi, ça me dérange beaucoup, les généralités. Quand on dit, les Égyptiens pensaient que, ils croyaient que, on ne peut pas dire ça sur 3000 ans.
Mais vous voulez dire, et dans le temps, et dans l'espace,
voilà.
D'une ville
alors,
à une
dans
autre.
Dans le temps, dans l'espace, et puis aussi au niveau social. Parce que le paysan, il n'a pas du tout la même conception de la religion ou de l'au-delà que le pharaon, que le vizir. Oui. Donc, pour moi,
est-ce que ça a été fait
dangereux.
De mettre en parallèle ce que pensaient, ce que croyaient les gens des villes et les gens des campagnes? Est-ce que c'est faisable?
Alors déjà, non, c'est absolument pas faisable parce qu'on n'a pas beaucoup
d'idées. Ce sont des hypothèses, oui.
Puis c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup d'idées de la taille des cités. On parle plutôt de cités que de villes, d'ailleurs. Même c'est vrai que quand on parle de la campagne, c'est faire des oppositions comme ça, on n'a pas la documentation qui nous permet en fait de répondre à ce genre de questions.
En tout cas, passionnant ce livre, et pas seulement pour les enfants, c'est pas pour les enfants d'ailleurs.
Ah non, j'étais
pas
très étonnée de voir le nombre d'adultes qui
l'ont acheté. Les contes de Toth, dans la maison d'édition La Châtaigne Bleue, est écrit par Amandine Marshall, qui certainement viendra nous expliquer beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas tout dit, tout entendu. Merci beaucoup Amandine.
Merci à vous.